Chapitre 2. Longtemps ma pensée humaine fut absente. À peine deux ou trois fois je la sentis suspendue dans l'ombre du précipice et qui essayait, impuissante, de remonter à la plateforme lumineuse. Une légère poussée de la fourmi qui occupait toute la place suffisait à renverser l'assaut. Et les efforts du vieil homme, comme des ongles d'acier qui eussent griffé un silex, avait éclairé mon bonheur de brusques lueurs de comparaison. Quand je me fus bien désaltéré à la fraîche beauté des choses, j'admirai la noblesse svelte de mes compagnes. La forme allongée du thorax me remplissait de joie, et le subit resserrement qui précède l'abdomen, l'admirable pétiole, plus étroit que le cou, m'émouvait comme jadis une belle taille de femme. Mais nul désir ne salissait mon émotion purement esthétique. Je ne me rassasiais point de l'équilibre merveilleux du corps. Je regardais avec transport le cercle de la tête, longtemps si parfait, et la façon suave dont la courbe se modifie pour permettre la tâche mobile et noble du cou. De l'autre côté du thorax, après le pétiole, le cou plus léségant, se dessinait, faisant contrepoids à la tête, l'ovale régulier de l'abdomen. La grâce longue et puissante des membres, le mouvement harmonieux des six pattes, me pénétrait aussi d'une volupté qui ne me vint jamais de la plus belle démarche féminine. Si Virgile avait pu voir ce que je voyais, il eût ensuite méprisé comme lourd les pas révélateurs de déesse et la course envolée de sa Camille. Je contemplais surtout la tête, la beauté rayonnante et fascinante des yeux aux 100 facettes, la beauté aussi des antennes, longues herbes toujours agitées au vent de la pensée. Le nombreux rayonnement immobile faisait les physionomies profondes comme des puits de ciel. Et le mouvement continuel des antennes, tantôt lent et grave comme une méditation, tantôt rapide comme un geste de combat, leur donnait l'expression et l'éloquence. Or, je fis un retour orgueilleux sur moi-même. Après m'être dit bien des fois enthousiaste, « Comme elles sont belles !» Je songeais radieux, « Mais comme je dois être belle !» Je me cachais dans un paradis écarté, au milieu de la petite forêt que formait un pliant de pâquerettes, et je me mis à étudier, glorieuse, le corps merveilleux qui était mon corps. Au creux d'une feuille, quelques gouttes de rosée s'étaient réunies. Je me penchais sur ce miroir, et j'admirais le spectacle que j'étais. Mes yeux, d'abord, me séduisirent. Ils formaient au premier aspect deux calottes sphériques lumineuses comme deux convexités de ciel. Mais, à les considérer attentivement, ils se décomposaient en innombrables hexagones dont chacun était un œil complet. Suffisait à avoir une portion d'horizon. Chacune de ces facettes, pour employer le mot savant, était un trou par où les images pénétraient jusqu'à mon cerveau. J'essayais plusieurs fois, mais inutilement, de les compter, ces trous enrichisseurs, mais je me perdais toujours dans le carrelage de lumière. Puis je m'amusais à remuer mes antennes, à mirer la grâce parlante de tout geste, de leur souplesse, leur rare finesse. Elles étaient divisées en 12 articles, tous mobiles. Le premier, celui qui est attaché directement à la tête, est très long. Les autres, beaucoup plus petits, forment un coude avec lui, semblent la lanière d'un fouet vivant dont il serait le manche. Vos savants ont donné aux deux grandes divisions de l'admirable organe des longs bien ridicules. La lanière vivante pour eux est un funicule, et le manche toujours ému, un scap. Ces antennes, injuriées des longes grotesques, sont non seulement des parures, demain ce panache branlant, mais les plus nobles et les plus utiles des organes. Elles sont le tact curieux et frémissant. Elles sont l'instrument de l'odorat. Elles sont enfin l'instrument du langage. Je les agitais, moins pour voir de beaux mouvements que pour jouir de ma faculté de parler, pour préciser ma pensée. Vous pensez avec des mots. Je pensais avec des mouvements d'antenne. Et telle la méridionale qui ne craint pas d'être surpris dit tout haut les paroles de sa joie, de sa douleur ou de son étonnement, telles mes antennes tremblaient, comme devant une confidente, toutes mes passions heureuses. Je m'émerveillais aussi des deux triangles et de mes mandibules. Je les faisais jouer, écartant et rapprochant leurs bords, que la disposition des dents faisait ressembler à deux scies. Je me disais quelle arme puissante devait constituer cette pince. Et j'essayais cet étonnant instrument de travail qui savait scier comme une scie, couper comme des ciseaux, arracher comme des tenailles, gâcher, racler, lisser, assujettir comme des truelles, enlever les déblais comme des pelles, et comme des mains, saisir, transporter, déchirer. Je faisais jouer aussi mes lèvres longues et mobiles, et ma langue si singulièrement élastique, si rapide à laper ou à lécher, ma langue qui, comme celle du chat, passait sur tout mon corps en une caresse qui nettoie et embellit. Sous mes lèvres, mes palpes remuaient coquettement, telles des doigts grêles et très inégaux. Les deux palpes extrêmes, les palpes maxillaires, très longs, s'agitaient presque comme des antennes, tandis qu'entre les deux petites palpes labiaux frémissaient plus lents. Et les joies que j'inspirais par ces quatre siphons, je ne puis les dire, je ne puis même pas les rappeler. Ces minces organes cachés sous la bouche sont le siège de sens inconnu de l'homme. Je me souviens, comme en un rêve vague, qu'ils m'apportèrent souvent des voluptés paradisiaques, parfois d'infernales tortures. Revenu sur la terre, je ne retrouve rien des plaisirs et des souffrances d'un monde trop différent. Après quelques regards à mon front, à mes joues, à la plaque immobile qui recouvre la bouche et que les savants nomment l'épistomée, je m'éloignais du miroir liquide et j'examinais directement mon thorax et mon abdomen. L'abdomen était d'un ovale très pur. Il comprenait 5 anneaux emboîtés les uns dans les autres et légèrement mobiles. L'élégance allongée du thorax me fut un sourire de beauté, mais j'examinais longuement le mystère de mes pattes. J'aimais mes griffes si promptes à s'accrocher, si habiles à gratter la terre et à rejeter les déblais, si fortes à retenir une proie, si adroites à attirer un objet utile à écarter un obstacle. Aux pattes antérieures, j'étudiais le peigne arqué qui servait à nettoyer mes antennes, à lisser mes poils, à faire la toilette de tout mon corps. Mais d'étranges petites pelotes, qui, entre les griffes, se hérissent de poils courts, m'intéressèrent surtout. Grâce à elles, je pouvais escalader les rocs les plus abrupts et les plus glissants. Grâce à elles, je pouvais, victorieuse de la pesanteur, me soutenir dans toutes les positions, marcher sur les plafonds comme sur les planchers, car de chacun de ces poils innombrables sortait, quand je grimpais ou quand mes pattes portaient mon corps sous elles, une gouttelette d'huile dont l'attraction multipliée suffisait à me soutenir sans nuire à la rapidité ni à la grâce de mon allure. Je rejoignis mes compagnes pour me mêler à leurs travaux. Elles étaient de taille très inégale. Les unes me paraissaient des géantes extraordinaires, d'autres d'invraisemblables naines. Et entre les deux extrêmes, toutes les tailles intermédiaires existaient. Les proportions du corps, admirables chez les petites et les moyennes, étaient moins heureuses chez les géantes. Celles-ci me déplaisaient par leur énorme tête tronquée et cylindrique, formidablement mais lourdement armée. leur marche, plus rapide que la mienne, avait pourtant quelques gaucheries. Elles portaient leur tête comme un fardeau mal placé et rétablirent dans leur corps disproportionné méchant embarrassant. On eût souhaité transformer leurs palpes en pattes pour soutenir le poids mal placé et rétablir dans le corps disproportionné un peu d'harmonie et d'équilibre. J'étais porté à mépriser comme une infériorité la petitesse, pourtant exquisement gracieuse des naines, et les fourmis, qui avaient à peu près ma taille, m'étaient les plus agréables à voir. Je devais mesurer de 6 à 7 millimètres. Plusieurs n'avaient que 3 millimètres, tandis que certaines fourmis à grosse tête atteignaient jusqu'à 12 millimètres. Ces différences de taille n'établissaient aucune hiérarchie sociale, ne nous divisaient pas en castes commandeuses et obéisseuses. Chacune de nous travaillait de son côté, comme il lui convenait, pour le bien de toutes. Si une œuvre entreprise ou un projet exigeait l'effort concerté de plusieurs, on demandait l'aide fraternelle des premières rencontrées, grandes ou petites. Cependant, quelques-unes travaillaient volontiers ensemble, étaient visiblement liées par une amitié particulière. Il y avait aussi des personnalités plus intelligentes et plus habiles auxquelles on accordait plus de confiance. Mais, quelle que fût la solliciteuse, l'aide était refusée bien rarement, et alors on expliquait toujours en deux ou trois frôlements d'antenne, j'allais dire en deux ou trois mots, qu'on ne croyait pas au succès de l'entreprise ou qu'on courait à un projet plus cher. La merveille qui me frappa entre toutes fut celle de notre force musculaire. Étonné par les fardeaux énormes que portaient avec aisance quelques-unes des travailleuses rencontrées, je me livrais sur moi-même à des expériences, d'abord timides et tremblantes. Mais peu à peu, je m'enhardis en un orgueil croissant. Je déplaçais sans peine un poids 20 fois supérieur à celui de mon corps. J'ai réussi même à soulever un caillou qui sûrement pesait 30 fois autant que moi. Je cessais bientôt ce dernier effort qui me fatiguait et qui peut-être était dangereux. À ce moment, le côté gauche de mon cerveau subit une agression de ma pensée humaine. Elle parvint à remonter à la conscience, à se dresser fièrement une seconde. Mais je chargeais cet homme présomptueux d'un poids proportionnel à celui que je venais de soulever. Je lui dis « Tu pèses 70 kilos et voici 20 quintaux sur tes épaules. » Et parce que je le chargeais un peu en arrière, il ne s'emboîta pas en lui-même comme un ressort écrasé. Il s'écroula à la renverse, faible insecte entraîné par la chute d'un rocher. Une fourmi venait à moi. Ses antennes frôlèrent les miennes. En un reproche affectueux et que par un usage hardi de l'analogie, j'oserais appeler un reproche souriant, elle me dit « Hé, la paresseuse, viens nous aider. Nous avons découvert un gibier étonnant, mais difficile à capturer. » Je la suivis avec empressement, et voici le spectacle auquel bientôt j'assistais. Un ver de terre énorme était à moitié sorti de son trou. Une centaine d'ouvrières le tenaient, tiraient avec une ardeur folle et inutile, comme des hommes qui essaimeraient, en le soulevant de leurs mains, de déraciner un vieux chêne. Lui s'arc-boutait désespérément et l'attelage obstiné s'épuisait sans avancer d'un pas. Je m'arrêtai, regardant le grand effort absurde, et je dis à ma compagne « Il n'y a rien à faire. »« Tu te trompes, » répondit-elle. « Il est certain qu'ils s'y prennent mal, mais viens avec moi. » Nous allons déchausser la racine du monstre. Nous commençâmes à déblayer autour de ce gibier rétif. Des camarades examinèrent nos mouvements, comprirent, vinrent nous aider. Peu à peu, la plupart des travailleuses furent avec nous, tandis qu'une trentaine restait accrochée au ver de terre, l'empêchait de reculer. Nos mandibules et nos pattes travaillaient vigoureusement. Grain à grain, le sol était entamé, le petit trou cylindrique s'élargissait en entonnoir, et quelques millimètres de plus de notre proie étaient envahis. Ah, la rue de la longue besogne! Quand nous l'avions commencé, le soleil était au milieu du ciel. Il se couchait et l'œuvre n'était pas achevée. Je me sentais hélas, impatiente, énervée. Mais aucune de mes amies ne se décourageait, aucune ne songeait à prendre un instant de repos. Le travail devait être fini d'une haleine, sous peine d'être inutile. Ce grand intérêt les empêchait de songer à la fatigue. J'avais honte de ma vaillance moindre, et mes pattes et mes mandibules douloureuses du même mouvement trop répété continuaient, machinales, leur labeur de terrassier. Enfin dégagée tout entière, la racine du monstre. Il ne reste plus qu'à transporter l'énorme capture. Une nombreuse compagnie s'attelle devant et tire. Une autre est en arrière et pousse. Quelques-unes dirigent le milieu du fardeau. Je fais partie d'une autre bande. Je suis un des éclaireurs qui fraient la route et rejettent les petits obstacles. Par instant, je me retourne pour voir le travail colossal et harmonieux. Je me livre à des calculs. Je songe à des hommes qui porteraient un Bouddha de 100 mètres de longueur et de 5 mètres de rayon. Tout allait bien. Plusieurs fois, les porteurs s'étaient relayés et lentement mais régulièrement, la caravane avançait. Un fourré d'herbe se rencontre, trop large, qui eût été interminable à tourner. La marche dans cette forêt devint extrêmement pénible. Au contact de chaque feuille et de chaque tige, le ver se tordait. Un moment vint où il fut engagé, tout sinuosité, en d'inextricables broussailles. Alors, dans l'impossibilité de continuer le transport, ce fut une longue agitation hésitante. Les fourmis ne se résignent guère à l'abandonner une entreprise et même leur persévérance s'obstine longtemps avant de renoncer aux moyens d'abord employés. Et quand quelques-unes proposèrent de couper le ver en deux, il y eut des résistances orgueilleuses. 20 fois avant de se décider, on s'attela de nouveau au fardeau trop long, trop mou et trop souple. 20 fois on expérimenta l'inutilité de cet effort contre la forêt hostile. La nuit était profonde quand nous nous résignâmes, un peu humiliés, à diviser le faisceau de difficultés que nous ne pouvions briser. Les 2 fractions de notre proie emmagasinées dans une case souterraine, je pris avec mes amis un repas qui s'était fait bien attendre. Bientôt, le sommeil vint réparer les fatigues et apaiser les émotions de cette heureuse et pénible journée. Au cours du précédent chapitre, je me suis un peu étonné de ma hardiesse dans l'emploi de l'analogie. 20 fois déjà, j'aurais dû des excuses au lecteur pour de tels involontaires et inévitables mensonges. Quand j'essaye de dire avec des paroles d'homme, des pensées, des expressions de fourmis, il est bien évident que mes traductions sont déhontées trahisons. Traduire exactement en une langue humaine ce qui a été pensé et dit en une autre langue humaine est presque toujours impossible. Et pourtant, quelle parenté étroite rapproche des paroles exprimées par les mêmes organes des pensées créées par des cerveaux semblables. Il ne peut au contraire y avoir entre des cerveaux si différents que celui des hommes et celui des fourmis, entre des langages aussi divers que la parole articulée et le mouvement des antennes, qu'hostilité et mutuelle incompréhension. Sans doute, quoique privé des organes indispensables, l'homme a de vagues rudiments de langage antennal. Il a la pression des mains, il a le baiser, mais ces attouchements trop synthétiques ne sont qu'un langage sentimental profond et imprécis. Le vrai langage antennal, au contraire, avec les 24 articles qui peuvent être touchés, est un merveilleux instrument d'analyse. Tant que j'ai eu les deux pensées, tant que j'ai pu, malgré la continuelle absence de concordance, essayer la folle comparaison, le langage de la fourmi m'a paru plus précis que votre parole même. L'autre jour, j'ai eu la curiosité de demander à mon ami Carissan, savant mathématicien, combien de combinaisons pouvaient produire les 24 articles actifs rapprochés des 24 articles passifs. Après de longs calculs, il m'a répondu par une formule cabalistique ou mathématique, toute mêlée de lettres grecques et de lettres latines. Pour donner une idée du résultat écrasant, il avait déterminé la valeur d'une de ces lettres, la dernière, et il affirme que celle-là représente à elle seule chiffre 2 suivi de 17 zéros. Songez d'autre part à la variété des attouchements possibles, couses ou frôlements. Songez que le sens est différent selon que les deux attouchements sont successifs ou simultanés, intérieurs ou extérieurs, selon que le frottement a lieu dans le sens de la longueur ou dans celui de la hauteur. Songez aux divers degrés de force et de durée, et vous commencerez à soupçonner l'incomparable richesse du langage antennal. Mais les points qu'une fourmi tient à préciser sont bien rarement des détails qu'un homme eût remarqués. Le même objet ou le même fait, analysé selon les deux méthodes, produit deux objets ou deux faits mille fois plus différents que votre veille, la veille le plus raisonnable et votre songe le plus affolant. Les éléments atteints par une méthode sont d'un autre ordre que ceux atteints par l'autre méthode. Or, chaque objet est un microcosme qui reflète l'ensemble de l'univers. Chaque fait, par ses causes et par ses effets, contient l'histoire des mondes. Essayez de nourrir le mouton de viande et d'herbe le lion, mais n'essayez pas d'introduire une pensée de fourmi dans un esprit d'homme. Mes comparaisons pour dire cette impossibilité sont des anémies. Le mouton peut voir votre viande, le lion peut voir votre herbe. La pensée de la fourmi n'existe pas plus pour votre cerveau que pour votre œil, les rayons ultraviolets. Je le sais trop. J'ai souffert si souvent de ces deux pensées qui se disputaient sans s'entendre en un perpétuel et irréparable quiproquo, ici criard comme la surdité, là gesticulant comme le délire. Je souffrais de l'impossibilité de comparer, de l'impossibilité de ramener à l'unité la course grondante d'une locomotive et la prière de Sainte Thérèse se ressemble plus que les deux pensées déchirantes que je portais en moi. Supposons, cependant, hélas, je crois bien que je ne conçois pas ce que je vais dire, je crois bien que je vais écrire des mots vides de sens, supposons que Dieu puisse ramener une pensée d'homme et une pensée de fourmi à l'unité. Même alors, il ne pourrait pas, dans l'expression, reproduire le miracle de cette unité. Il ne pourrait pas trouver un mouvement d'antenne qui correspondît exactement à une parole. Le langage par geste, tant qu'il reste naturel et spontané, est, dans sa pauvreté, ce qui ressemble plus au riche langage antennal. Essayez de traduire par des mots le sens d'un geste naturel. Plusieurs versions seront possibles, donc aucune n'est absolue. Le langage des sourds-muets se traduit facilement en parole, parce qu'il est un artifice qui gesticule de la parole décomposée en lettres. Il est de la parole écrite sur l'air, comme une missive est de la parole écrite sur du papier. Il est, malgré la première apparence, de l'analyse vocale. Il n'est pas une traduction spontanée de la pensée. La traduction spontanée d'une pensée est l'expression nécessaire de cette pensée. Elle est la pensée même, la pensée en mouvement. La pensée antennale ne sera jamais exprimée par de la pensée vocale, ni la pensée vocale par la pensée anténale. Et les paroles de fourmis que j'ai rapportées ou que je rapporterai doivent être considérées comme les grossiers symboles d'une réalité inexprimable pour nous. La fourmi qui m'avait amené déraciner le ver de terre allait devenir ma meilleure amie. En revenant au nid, après la difficile besogne où elle avait montré tant d'intelligence, de décision et d'activité, je me sentais entraîné vers cet être supérieur et, timidement, je lui demandais son nom. Vous comprenez bien que je ne puis pas vous répéter le véritable nom, que je ne puis plus me le dire à moi-même, et que je ne puis le penser maintenant que je n'ai plus d'antenne. Ce n'est pas tout à fait au hasard que je le nommerai. Je lui donnerai le nom que, dans la fourmilière, lui prêtait déjà ma pensée d'homme. Je l'appellerai Aristote. Pourquoi ? Aristote est un mot humain, une pensée vocale, que l'image anténale de mon ami évoquait régulièrement l'être double et monstrueux qu'était mon esprit. Le vrai nom se composait de 4 attouchements. Le dernier, plus faible que les autres, avait une vague analogie avec vos syllabes muettes. La grande sagesse de mon ami, sa conversation nourrie de faits et toujours pénétrante, et toujours, oui, ce mot balbutie une lointaine vérité, toujours généralisatrice, m'incitait aussi à penser au grand philosophe. Chaque fois que ma pensée de fourmi, ma pensée de droite, frémissait et les 3 autres attouchements forts et l'attouchement faible, ma pensée gauche prononçait les 3 syllabes sonores et la syllabe muette, Aristote. Et aussitôt je me voyais homme, parce que ce nom appliqué à une fourmi me donnait envie de rire et que la fourmi ne peut pas rire. En racontant ma première rencontre avec la fourmi Aristote, j'ai dit qu'elle m'adressa un reproche affectueux et comme souriant. Je voudrais expliquer ce qui fut ici l'analogie d'un sourire fraternel. L'homme a plusieurs langages. Il a la parole, langage analytique, langage pratique, langage de la pensée. La parole qui exprime tout ce dont il a une conscience précise. Et il a le sourire, l'attitude, le geste, le serrement de main, le baiser. Il a les mouvements, les attouchements qui disent des spontanéités et des mystères, du profond et du non analysable. La fourmi a aussi, à côté du langage anténal et analytique qui dit l'esprit, des moyens de bégayer son âme. Ses antennes peuvent, comme notre parole, dire « je t'aime », mais ses sympathies s'expriment de façon moins volontaire et plus spontanée par de douces stridulations, auprès desquelles le chant du grillon de la cigale est un roulement de tambour, si grossier et assourdissant que la fourmi ne l'entend point. C'est par une note de cette langue parlée, ou plutôt musicale, que la fourmi Aristote avait corrigé ce que son reproche pouvait offrir de blessant, m'avait comme souri, avait transformé en caresse les coups un peu rudes de ses antennes.
La fatigue mauvaise du 11 avril, causée par des phénomènes miraculeux et affolants, avait été suivie d'un sommeil long, agité, emporté en des vertiges sur des nuages de cauchemars qui tout à l'heure vont s'entr'ouvrir, se dissoudre, me laisser tomber. La fatigue saine du 12 avril, fatigue naturelle de la joie et du travail, me procura un bon sommeil sans rêve qui, en peu d'heures, me rendit toutes mes forces. Je m'éveillais, heureux d'un bonheur sans fièvre et sans étonnement. Dans la galerie supérieure, je rencontrai Aristote, éveillé des premières. Elle me dit un bonjour amical, et voici que je fus triste en lui rendant sa caresse antennale. Ma pensée d'homme se réveillait aussi, et elle réclamait cette joie inconnue des fourmis ouvrières, cette satisfaction d'un besoin qu'elles n'ont pas, un amour. Le vilain homme écrasant me piétinait le cerveau gauche, et il disait Aristote n'est pas une femelle et tu n'es plus un mâle. Vous êtes deux neutres qui ignorons le baiser et qui ignorons les douceurs familiales. Voici que commence entre vous, êtres indigents, une de ces pauvres amitiés particulières dont deux nonnes impuissantes essaient de se consoler et dont la communauté a la sottise d'être jalouse. Je voulus chasser l'insolent. Je lui répliquai, « Oses-tu bien te prévaloir, comme d'un rare bonheur de l'infâme besoin qui t'apporta, en échange de quelques misérables plaisirs physiques, tant de peines morales ? Et en un orgueil qui se révolte, mes antennes gesticulèrent les noms des sens qu'il n'avait pas, lui, les noms des joies puissantes que toujours il prénirerait, lui. Il ne comprenait point, et il me répétait, sourd obstiné, « Mais tu as perdu l'amour, tu as perdu l'amour !» Même il se permit une grossière injure historique, et après m'avoir appelé plusieurs fois avec mépris « mâle devenu neutre », il me cria enfin, au moment où je parvenais à le renverser, à le faire dégringoler hors de ma conscience, « Abélard !» Et comme j'exprimerais aujourd'hui ma tristesse par un sourire navré, ou par un geste accablé et des bras qui retombent, ou par un de ces hochements de tête qui semblent nier tout bonheur, voici que ma peine m'arracha une longue stridulation angoissée et angoissante, telle l'interminable et déchirant sanglot d'un violon. Aristote me regarda, étonné, fit une musique consolatrice, d'abord tendre et basse comme une berceuse, mais qui peu à peu montait à des vaillances. Et ses antennes demandèrent « Qu'as-tu ? Jamais fourmi ne pleura une note aussi poignante. » Je la sentis si amicale, si maternelle, que je voulus la prendre pour confidente. J'ai mis des mélodies de confiance et d'abandon. Ce fut comme si, homme, j'avais appuyé ma tête trop lourde sur un cœur sûr. Et mes antennes essayèrent de compter. Il y a deux jours, j'étais un homme. Une puissance surnaturelle m'a transformé en fourmi. Mais ma pensée ancienne revient souvent, cruelle comme un ennemi chassé de la ville et qui éternellement, sans jamais se lasser, ouvre de nouvelles brèches et recommence l'assaut. Tout à l'heure, elle m'a fait regretter que je ne sois pas un mâle et que toi que j'aime, tu ne sois pas une femelle. Dis, chérie, pourquoi n'avons-nous point d'ailes pour aller nous aimer dans l'azur ? Elle me regarda comme on regarde un fou. Et elle dit, avec une musique de stupéfaction et de pitié, que traduirait peut-être tel de vos branlements de tête, « Tu as rêvé que tu étais homme. J'ai eu bien des cauchemars dans ma vie. Je n'ai jamais eu de cauchemar aussi laid. » Et après une pause, ses antennes reprirent. « Mais qu'as-tu dit encore ? J'ai vu bien des fourmis qui avaient respiré ou bu de l'ivresse. Jamais antennes ivres ne furent aussi ivres que les tiennes. » Elle ajouta, « Reviens à toi. Aie honte des désirs inférieurs qui ont suivi ton mauvais rêve. Réveille-toi tout à fait. » Elle redevint très amicale, et comme une sœur humaine embrasserait à plusieurs reprises mon visage attristé, elle stridula quelques notes indulgentes et tendres qui semblaient dire « Ah, je te pardonne ta folie d'un instant, et je t'aime autant qu'avant tes paroles absurdes. » J'appris en cette heure cruelle et douce que toute confidence profonde est impossible, et que si on ne veut point passer pour fou aux yeux des êtres aimés et voir les affections les plus grandes se dégrader en pitié, il ne faut pas essayer de balbutier la réalité de son âme. Entre toutes les heures tristes, je vais dire les plus tristes que je connaisse. On vient d'obtenir d'un être aimé et aimant tout ce qu'il peut vous donner. Les deux ont essayé par les moyens les plus puissants, par la parole et par le silence, par le baiser et par le regard, s'ils sont hommes, de s'unir, de se pénétrer mutuellement, de s'amalgamer, de n'être plus qu'un. Ils ont goûté d'abord des joies intenses, des voluptés apparemment sans limite. Mais ces ambitieux ont voulu aller plus loin, toujours plus loin dans le bonheur. Et voici qu'ils ont dépassé la région du bonheur. Ils ne pleurent point comme dans une peine vulgaire. Leurs yeux de damnés sont secs et brûlés. Ils sourient et ils proclament qu'ils jouissent de toute la joie. Mais ils savent bien qu'ils sont dans l'erreur pire, dans l'enfer supérieur, qui fait au paradis leur couronne de lumière et d'où l'on ne saurait redescendre. Et dans le noyau douloureux de ce soleil et dont les rayons un peu plus loin font de la joie, ils songent. Oui, disent les deux âmes misérables, nos lèvres peuvent longtemps, longtemps n'être qu'un baiser, mais la seconde viendra nécessaire où elles se sépareront. Nos mains peuvent rester unies des heures peut-être, mais la fatigue ou l'urgence d'un geste banal pour la vie les disjoindra enfin. Nous pouvons répéter les mots d'amour et, quoi qu'on leur ait fait dire tant de banalités et de superficie, nous les trouvons doux quelque temps. Mais une vague plus haute de la tempête d'amour nous élèvera trop au-dessus de l'inexprimable et nous nous irriterons contre l'impuissance des mots. Nous regardons dans nos yeux le reflet de nos pensées. Nous sentons qu'elles marchent d'un même pas sur le même chemin. Et voici que les yeux de l'un de nous, d'un battement de paupières ou d'une fuite du regard, se sont dérobés. Nous étions à un carrefour du songe. Maintenant, chacun va de son côté, égaré, perdu. Et nous mentons, nous le savons, en affirmant notre accord et que notre marche continue, inséparable. Ah, tous nos efforts pour nous unifier viennent se heurter, blesser au mur métaphysique qui fait que deux êtres sont deux, que deux consciences comme deux atomes sont l'une à l'autre impénétrables. Ah, la distance est toujours aussi infinie, puisque inépuisable, que nous soyons à mille lieues et que nous soyons ennemis, ou que nos chairs et nos êtres croient se pénétrer d'amour. Le même point indivisible de l'espace ne peut être occupé à la fois par deux corps. Le même point indivisible de la pensée, par deux esprits, ni par deux âmes, le même point visible du songe et de l'aspiration. Ah, les rapprochements ne sont qu'apparence et les victoires sur la distance morale conduisent à l'angoisse véritable. La voici, l'angoisse de se sentir éternellement, irréparablement deux. L'affirmation de notre unité fut une hyperbole, bienfaisante dans la marche, sans vertu maintenant que nous sommes arrivés au bout et que, hélas, nous savons. Pleurons nos rêves mystiques. Je ne serai pas toi, tu ne seras pas moi. C'est en vain que nous nous sommes trouvés. Cette angoisse, homme, vous est donnée par le seul amour, parce que chez vous, l'amour est le grand effort contre l'invincible isolement, l'effort qui le mieux vous promit la victoire et qui, d'une espérance plus haute, vous fit tomber plus lourdement dans l'inévitable déception. L'être grossier et matériel que j'étais avant la métamorphose ignorait ces chutes, parce qu'il n'avait pas d'ailes pour s'envoler vers l'impossible. Maintenant, des ébauches de souffrance m'avaient affiné, m'avaient préparé à la souffrance, et j'aspirais à l'amour. Et l'amour m'était interdit. Mais on se fait des douleurs comme on peut, et l'amitié sait créer l'orage irrespirable autour de ceux qui ne peuvent monter plus haut. La grande douleur, c'est toujours notre solitude, constatée irréparable. Et Aristote, me reprochant mes désirs comme des abaissements, m'avait isolé en mon moi incompris et incompréhensible, en l'île abrupte de mon moi, décidément inabordable à tous. Nous avons été créés par un de feu qui ne s'attendrit jamais. À aucun des Robinsons que nous appelons nos âmes, il n'accorde un vendredi. En ces heures profondes, on éprouve le besoin de descendre éperdu et de s'asseoir au fond de sa souffrance, comme âprement satisfait de la sentir si complète, si loin des grossièretés de la vie. Les douleurs vraies n'admettent point de distraction, veulent se dévorer elles-mêmes. Je quittais mon ami sous un prétexte quelconque. Je me retirais dans la galerie inférieure, au point le plus solitaire, et immobile, je me donnais tout entière à ma torture, la tournais, la retournais en moi, pour jouir de tout le mal qu'elle pouvait me faire. Combien dura ma tristesse jusqu'à la mort ? N'en sais rien. L'angoisse métaphysique supprime le temps. Le premier remède qui soulage un peu la surface de ce mal, c'est l'orgueil et la fierté d'avoir pénétré dans des souffrances inabordables aux vulgaires. Puis, du temps passant, la pensée trop répétée perd de sa précision. Les poignards indécis ne frappent plus, mais ils se plient, fantômes, flottent, se dispersent, forment une brunie de mélancolie. Et ces heures-là ont leur douceur lentement berceuse. On finit par céder, avec une indulgence indifférente, à la nécessité de rentrer dans sa vie. Et peu à peu, oh non, certes, on ne se soucie pas des résultats. Quand on porte en soi un tel mélange d'enfer et de paradis, comment serait-on encore toucher les choses de la terre ? Mais la superficie de notre âme s'intéresse curieuse et souriante au spectacle. Ma mélancolie farouche me retint loin des travaux du dehors. Longtemps, j'errai au hasard, m'arrêtant sans savoir pourquoi, reprenant sans raison ma marche sans but. Mais par degrés, mon inaction devint observatrice, et je finis par étudier parfois de mes yeux, presque toujours de mon odorat et du toucher de mes antennes, le labyrinthe qu'était ma nouvelle patrie. La ville souterraine se composait de 22 étages de rues. On y entrait par un cratère formé de parcelles de terre superposées, murs glissants et croulants, excellent rempart contre les attaques du dehors, mais si fragile et toujours en réparation. Il nous protégeait aussi contre les pluies, les lacs éphémères et les torrents soudains qu'elle crée. Il donnait accès dans un long et étroit boyau oblique, très facile à défendre. Aux heures de danger, on faisait garder cette galerie par un soldat, un de nos géants de 12 millimètres. Son énorme tête cylindrique et brusquement tronquée servait de porte. Elle était un bouchon, fermant exactement un goulot. Aiguillons et crocs glissaient sur sa dureté lisse. Parfois, à un moment favorable, le bouchon s'émouvait, avançait vers le cratère, de formidables mandibules s'ouvraient, entraient dans la tête d'un assaillant. Puis, rapidement, sans même essayer d'écarter de nouveau ses mâchoires, le soldat reculait un peu en arrière de son premier poste, et devant sa présence obstinée, l'immobilité de la morte faisait un premier rempart. Mais je n'ai pas l'intention de dire en ce chapitre des scènes de guerre auxquelles je n'assistais que plus tard. Le cratère et la longue entrée oblique laissent arriver peu de lumière aux galeries et aux salles du premier étage, de moins en moins de lumière aux étages suivants et aucune lumière aux étages inférieurs. L'odorat très développé nous dit l'endroit où nous sommes. Nous possédons d'ailleurs ce précieux sens de la direction qui semble aussi faire partie du trésor intellectuel de certains oiseaux. Mon sens de la direction, parfait tant que je marchais, mandibule vide, était en défaut quelquefois quand j'étais chargé. Je ne puis retrouver la cause de cette lacune. Il y faudrait une analyse précise d'un sens que je n'ai plus, dont je ne conçois plus le détail, que je ne puis plus définir que du dehors, par son résultat général. Mon odorat étonné m'avertissait-il d'une erreur ? Dans les cas graves, je déposais un instant mon fardeau, et aussitôt je savais. Le plus souvent, le rapide toucher de mes antennes suffisait, m'apprenait le point exact où j'étais et les nouveaux changements apportés dans la construction. Les 22 étages se ressemblaient. Les galeries horizontales se superposaient dans presque tout leur parcours. Pourtant, elles n'étaient pas droites. À certains points, le plus souvent aux extrémités, leurs courbes se rapprochaient, finissaient par se rencontrer. Un petit nombre de galeries verticales, irrégulièrement disposées, mais presque toutes vers le centre du nid, les faisaient ainsi communiquer. De distance en distance, des piliers soutenaient les voûtes et parfois de longs murs cloisonnaient la galerie. Ailleurs, au contraire, la rue s'élargissait en immense place, ou plutôt, le couloir débouchait dans une vaste salle. Ces grandes salles occupaient souvent le point d'intersection des galeries. Leurs voûtes étaient supportées, selon les cas, par des colonnes, par des murs minces ou par de robustes arcs-boutants. Quelquefois aussi, un couloir, à peine commencé, s'arrêtait net, fermé en impasse, n'était qu'une retraite. Les étages inférieurs étaient inoccupés. Je m'y promenais dans une solitude absolue. On eût dit une ville abandonnée. On s'y retire seulement dans les grandes chaleurs ou si le haut de la fourmilière vient à être inondé. D'ordinaire, on se tient au premier étage. Pendant la journée, d'ailleurs, quand il fait beau, presque tout le monde est dehors, à chasser, à moissonner, à glaner, à travailler aux routes, ou même à jouer et à jouir des choses. Certaines cases étaient pleines de blé. Mon odorat et mes antennes m'apprirent que ces greniers différaient des salles d'habitation. Leurs murs étaient plus unis, plus cimentés, mieux défendus contre l'humidité qui eût gâté nos provisions. Parfois, j'y rencontrais quelques ouvrières qui procédaient à un nouveau tassage des parois. Car l'absolue sécheresse qui permet de garder les grains intacts sans commencement de germination n'est conservée que par des soins continuels et des travaux à chaque instant renouvelés. Dans une case à grains, un léger commencement d'humidité blessa mon odorat. Mon instinct l'emporta sur ma tristesse, et la convexité de mes mandibules frappa les murs vaillamment jusqu'à ce que tout me parût en état. Cependant, certains grains étaient dans une case humide et qui devaient rester humides. Ce blé était destiné à être consommé bientôt. Les mâchoires des fourmis, puissants et ingénieux outils de travail, sont impropres à mâcher. Nous ne pouvons nous nourrir d'aliments tout à fait solides. Nous aimons surtout à laper et lécher les liquides. Le blé devait donc, avant de servir à nos repas, subir un commencement de germination, se ramollir, et son amidon se transformer en un délicieux sucre fluide. Je remontai vers la lumière. À l'étage supérieur, je fis une rencontre curieuse. Une fourmi énorme, plus grande encore que les plus gigantesques de nos soldats, marchait lentement, suivie de près par quelques ouvrières. Je m'approchai du monstre, et je le considérais avec attention. La tête, petite, avait de l'élégance et portait en arrière, près de la tache fine du cou, une parure charmante comme trois perles marquant par leur limpidité les sommets d'un triangle. Mais le thorax, de forme trop ronde, était déshonoré entre les deux premières paires de pattes par la pauvreté incompréhensible de quatre moignons. et l'abdomen trop gros rendait l'allure lourde, gauche, ignoblement traînante et grotesque. Très occupé d'examiner ces étrangetés, je ne remarquais pas que je croisais mon ami Aristote. Mais elle me vit, m'arrêta, et ses antennes me dirent, pendant que tout son corps se soulevait de dégoût, « Voilà ce que tu aurais voulu que je sois. » En ce moment même, le monstre, sans arrêter sa marche, laissa tomber derrière lui une longue graine d'un blanc presque opaque. Je suis bien obligé de nommer la couleur humaine qui correspond à la nuance sans nom pour vous que virent mes yeux de fourmi. Une ouvrière se précipita, recueillit précieusement la graine blanchâtre, disparut avec le bizarre trésor. Je demandai à Aristote, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle me regarda avec étonnement, et elle dit, « À tes cauchemars donc tué ta mémoire ? Ce monstre est une femelle, et le trésor qu'une de nos sœurs a emporté est un œuf. » Elle reprit, indulgente, « Oh, tu es si jeune, d'ailleurs, et si étourdie, que tes ignorances ne devraient pas s'en m'étonner. » Les antennes s'attendrirent comme une voix maternelle. « Je ne sais pourquoi, continuait Aristote, je t'ai toujours aimé. Je ne sais pourquoi j'ai eu pour toi des soins particuliers et émus quand tu étais une pauvre larve frissonnante, quand tu étais une nymphe endormie, traversant cette sorte de mort qui précède la naissance complète. Le jour où on te délivra de ton cocon, c'est moi qui te tirai doucement de la prison où tes membres ne pouvaient se déplier. C'est moi qui déchirai la dernière pellicule satinée qui t'emmaillotait. Mais c'est moi qui, d'un soin délicat, dégageais tes antennes et qui déliais tes palpes et tes pattes. C'est moi qui débarrassais ton abdomen de son enveloppe et qui découvrirai la rare beauté de ton pétiole. Ta première nourriture te vint de mon jabot. Je t'appris les attouchements qui disent nos pensées et les bruits qui chantent nos émois. Je surveillais tes premiers pas hésitants et j'enseignais à tes antennes tâtonnantes les sentiers et les labyrinthes de notre ville. Ces antennes s'arrêtèrent un instant comme écrasées sous un fardeau d'émotions. Puis elles reprirent, caressantes d'abord, mais bientôt tristes et presque indignées. « Tu te rappelles certainement ces derniers soins, ma fille chérie. Jusqu'ici, je t'avais toujours vue reconnaissante et digne de mon amour. Seulement, je ne sais quelle folie vient de passer sur toi. J'ai eu cet étonnement hier de te sentir me demander mon nom. Ce matin, tu fus d'abord affectueuse et charmante. Mais voici que, par je ne sais quelle aberration, par je ne sais quelle perversité sans exemple, ton amour s'est déformé en un vif désir sensuel qui, heureusement, ne peut y avoir aucune réalisation. Voici que je t'ai vu le délire ignoble d'un mâle et que toi, noble ouvrière sans ailes, tu as été touchée par la folie des ailes. Ces maternelles gronderies durèrent longtemps. Je sentis à quel point j'avais offensé cette précieuse amie. Je m'excusais, j'avouais que depuis 2 jours, en effet, je ne me reconnaissais plus. Une secousse, une maladie, je ne sais quoi, m'avait troublé d'aspirations absurdes et m'avait enlevé toute mémoire. J'avais peine à me retrouver dans notre fourmilière. Mes sœurs étaient toutes des inconnues à mes yeux, changées, j'avais oublié jusqu'à mon nom. Aristote me regarda avec pitié. Ses antennes battirent l'air en un monologue. Mais mes yeux suivaient leurs mouvements, et je lisais à mesure ce qu'elle disait. Elle disait « Il y a des maladies bien étranges. » Je suppliais, je fais appel à ton affection qui est mon seul bien. Le mal étrange a enveloppé mon esprit d'un cocon aveuglant et paralysant comme celui où dormit mon corps de nymphe. Aristote, délivre mon esprit du cocon d'ignorance qui, je ne sais par quel mystère, s'est reformé et apprends-moi la vie une seconde fois. » Le geste de ses antennes fut une exclamation. « J'ai vu bien des choses extraordinaires, disait-elle, mais le mal dont tu es frappé est plus extraordinaire que tout ce que j'ai vu. » Puis, en un brusque recul de méfiance, elle frémit ces mots. « Ne te moquerais-tu pas de moi ?» J'eus une stridulation douloureuse qui prouvait mon entière bonne foi. Et en même temps, mes antennes reprochaient « Oh, chérie !» Elle fut persuadée. « Viens, » dit-elle. Elle me conduisit à une case où de nombreuses graines blanchâtres, semblables à la graine que laissa tomber la femelle et que recueillit l'ouvrière, étaient rangées en ordre. Les œufs voisins de l'entrée étaient de même taille que celui que j'avais vu pondre. À mesure qu'on avançait, on les trouvait plus gros, et la dimension des plus éloignés était à peu près double de celle des premiers. En outre, l'extrémité supérieure s'en était recourbée, et toute leur masse était devenue transparente. Des ouvrières soignaient les œufs. Leur langue les tournait, les retournait, les mouillait continuellement. Aristote m'expliqua qu'elle les nourrissait. Les liquides répandus sur la mince coquille étaient des sucs nutritifs qui pénétraient à l'intérieur et permettaient à l'œuf de se développer. Pendant que nous étions là, l'œuf le plus gros s'ouvrit et une larve apparut, falote et minuscule. Aristote saisit cet être nouveau et le transporta. Je la suivis. Nous arrivâmes à une case voisine où dormaient de nombreuses larves, toutes très petites. Aristote me fit examiner ces êtres aveugles, sans pattes, sans palpes, sans antennes, pauvres tas informes et mous. Ils se composaient de 12 anneaux. La tête, plus étroite que le corps, était inclinée en avant. Quelques-unes grelottaient, à peu près immobile, semblait dormir sous un cauchemar. D'autres se redressaient, se soulevaient, et l'ouverture qui précédait leur tête et qui était leur bouche s'agitait inquiète, cherchait visiblement quelque chose. Les larves, presque tranquilles, étaient repues. Les larves turbulentes avaient faim. Les ouvrières comprenaient les frémissements de leur bouche et les sursauts de leur masse impuissante. Elles accouraient, mandibules écartées, et dégorgeaient à même la bouche affamée une goutte de liqueur nutritive. On eût dit des oiseaux donnant la béquée à leurs petits. Seulement ici, la nourriture n'était pas prise à l'extérieur et apportée toute brute. Elle venait, sirop exquis, du jabot de la nourrice. Une autre case contenait des larves un peu plus grandes, d'un dessin un peu moins grossier. Une troisième, des larves plus grandes encore et mieux formées. Ma pensée d'homme songeait à des enfants distribués, selon leur âge, entre les différentes classes d'une école. Enfin, une dernière case contenait des larves presque aussi grandes que nous, et formait la transition avec les dortoirs des nymphes. Les nymphes dormaient sans mouvement. Quelques-unes s'étaient filées prudemment une coque et sommeillaient leur mort provisoire dans un somptueux cercueil de soie. La plupart n'avaient que de minces langes, attendaient la vie roulée dans la pauvreté nue d'un linceul. Leur forme était déjà la nôtre, mais pattes, palpes et antennes étaient repliées, appliquées contre le corps, et l'être tout entier était d'un blanc mou. Quelques ouvrières, au mouvement rare, lents et silencieux, telles les sœurs de la charité dans un hôpital, surveillaient leur immobilité. L'une d'elles revenait de visiter un cocon. Elle frappa les antennes de deux ou trois amis et elles allèrent à ce cocon. Elles l'examinèrent longuement. Elles cherchaient sans doute la place la plus mince. Arrachant quelques soies, elles l'amincirent encore. Le tissu était enchevêtré et difficile à rompre. Elles pinçaient et tordaient. Un petit trou fut percé, puis tout voisin un second, ensuite un troisième. Aristote m'expliquait leurs opérations, et ce que j'appellerais, faute du mot exact, l'accent de ses antennes, était approbateur, mais tout à coup elle dit « Oh les maladroites !» En ce moment, elles essayaient d'agrandir les ouvertures en tirant la soie comme une étoffe qu'on veut déchirer. Longtemps, mon ami les regarda avec des airs ironiques, s'épuiser en efforts inutiles. Quand elle vit qu'elle n'abandonnerait pas d'elle-même, le procédé absurde, elle eut pitié de la prisonnière et courut aider à sa délivrance. Elle fit passer une de ses dents par un des trous et se mit à couper les fils sans précipitation, méthodiquement, l'un après l'autre. Deux ouvrières agrandirent de même les deux autres trous. L'opération fut longue, une merveille de patience. Les trois trous réunis en une seule déchirure ouvrirent un passage par lequel on découvrait la tête et les pattes de l'embastillé. Mais il eût été dangereux de la dégager par cet orifice étroit dont les bords eussent froissé, peut-être déchiré, sa faiblesse molle. Aristote, se servant toujours de ses dents comme d'une paire de ciseaux, fit partir de ce cercle une longue lente, et une autre ouvrière procédait à un découpage parallèle. Maintenant, Aristote, debout, appuyé sur son abdomen auquel ses quatre dernières pattes arc-boutées semblaient dessinées de fermes contreforts, soulevait des deux pattes antérieures le couvercle qu'on venait de rendre mobile. Et plusieurs fourmis, avec de longues précautions maternelles, tiraient du cercueil la pauvre évrée. Quand elle fut libre, elle ne pouvait même pas essayer de marcher, et c'est à peine si son tremblement réussissait à ne pas tomber. Car un linceul l'enveloppait encore, la séparant de la vie et du mouvement volontaire. C'était une mince membrane satinée. On déroula délicatement ce maillot paralysant. On tira d'abord les antennes du fourreau, on les allongea, on les fit jouer. On soigna de même les palpes. Puis on délia les pattes et l'une après l'autre on les étendit, on les posa d'aplomb sur le sol. Enfin, on dégagea, avec ces mouvements de triomphe qui accompagnaient la fin heureuse de tout labeur difficile, la tête, le thorax, le pétiole, l'abdomen. Et d'un pas chancelant, comme ivre, la ressuscitée marcha. Une ouvrière lui donna une goutte tirée de son jabot. L'enfant avala avec délice. Cependant, Aristote courait à une case voisine, rapportait un grain de blé bien à point, tout sucre et sirop, le posait devant la fourmi nouvelle, et décomposant les mouvements comme dans une leçon, se mettait à lécher. L'élève regardait sans voir, dans une stupeur mal réveillée. Aristote, avec douceur, écarta les mandibules de la jeune fourmi, réussit à lui faire tirer la langue, à la lui faire passer sur le régal exquis. Et avec des mines gauches et heureuses, l'enfant lécha. Un faux mouvement fit rouler son grain hors de sa portée. Elle continua, stupide, à lécher le vide devant elle. Mais Aristote ramena vivement le repas sous la langue maladroite. Nous nous éloignâmes. Aristote, sur ma demande, expliqua l'avenir de l'ouvrière que je venais de voir naître. Dans une dizaine de jours, rien ne la distinguerait de l'une de nous. Elle irait joyeuse au travail, libre, dehors ou dedans, selon sa fantaisie, selon la température, selon que son intelligence sentirait plus vivement tel ou tel besoin de la communauté. Mais pendant 2 ou 3 jours, une aînée ferait son éducation, lui enseignerait la ville et le travail, lui apprendrait à faire sa toilette, ferait répéter à ses antennes les mots les plus nécessaires. Puis, tant qu'elle se sentirait seulement de demi-force, comme convalescente de l'effort de naître, elle vivrait à l'intérieur, aidant à nourrir les larves et à maintenir la propreté de l'habitation et la sécheresse des greniers. Pendant que ma savante amie m'exposait ces choses, nous croisâmes de nouveau la pauvre promenade lourde de la femelle. J'interrogeai Aristote sur le beau triangle de perles qui ornait la tête du monstre et sur les 4 moignons courts qui déshonoraient son thorax. Les perles étaient les ocelles, petits yeux simples semblables aux yeux des hommes, peu utiles à l'insecte qui possède les admirables yeux à facettes. Les moignons étaient les attaches des anciennes ailes arrachées. Ses laideurs étaient les stigmates de beauté disparue. Mais Aristote disait rapidement les faits, n'exprimait aucune réflexion. Elle pressait le pas pour s'éloigner du monstre, et, comme vous feriez un geste de mépris, ses organes stridulants émettaient une note dédaigneuse.